VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manilakiza en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du lundi 25 septembre 2017. Voici d'abord les principaux titres. Évasion hier de 34 prisonniers d'une prison de l'Est de la RDC. La plupart sont condamnés pour viol et d'autres pour vol et assassinat. Étonnement et incompréhension, le gouvernement du Tchad réagit à la décision de Washington de bannir ses ressortissants du territoire américain.
Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision.
Vous aurez les précisions de André Kodmajingar, la banque PNB Paribas accusée de complicité de génocide au Rwanda.
Nous reprochons tout simplement à BNP Paribas d'avoir financé un achat d'armements qui ont servi dans le génocide des Tutsis.
Le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, Alain Gauthier, le chef de la diplomatie nord-coréenne, accuse le président Donald Trump d'avoir déclaré la guerre à son pays et les Kurdes d'Irak votent pour leur indépendance, mais Bagdad et la communauté internationale s'opposent à ce référendum historique. Retrouvez Nicolas Pineau pour votre page d'espoir et Jacques Aristide pour l'actualité économique, juste après le journal. Dans l'est de la RDC, un adolescent a été tué et 7 autres personnes blessées au cours d'une manifestation contre l'insécurité dans un quartier populaire de Bukavu, capitale du Sud Kivu. La victime a été mortellement atteinte par une balle. D'après un témoin, la police a d'abord tenté de disperser les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène avant de tirer à balles réelles. Toujours au Sud Kivu, évasion spectaculaire de 34 prisonniers. Cette nouvelle évasion a eu lieu à la prison centrale du territoire de Mwenga. 3 évadés ont été capturés et 31 autres courent encore dans la nature. Ernest Mujero donne les détails.
Selon l'administrateur du territoire de Mwenga, Désiré Masumbuko, il était 17 heures passées sous une pluie battante lorsque 34 détenus, profitant de l'inattention des gardiens, se sont évadés de la prison centrale de Mwenga en passant par un trou d'environ 60 cm de diamètre qu'ils ont creusé le long du mur opposé à l'entrée principale des cellules carcérales. Notre source précise que parmi ces évadés, il y avait 27 condamnés pour viol. Le député provincial Uli de Mwenga et chef de la chefferie de Basile, le Mwami Kalenga Rizik, parle lui des 41 évadés sur les 42 qui avait dans cette maison carcérale. Il souligne qu'après récupération des 3 évadés, 38 sont encore recherchés. Parmi eux, 26 condamnés, dont 22 pour viol selon ses sources. Le vice-président de la nouvelle dynamique de la société civile de Mwenga, Mukambilo Asilibu, déplore une certaine négligence de l'État congolais dans le traitement des personnes privées de liberté. Selon lui, c'est depuis des semaines que les prisonniers de Mwenga et même de la cité de Kamituga se plaignent de l'absence d'alimentation et de soins médicaux. Mukambilo ajoute que quelques jours avant cette évasion, les détenus s'était rebellé dans cette prison centrale de Mwenga du fait d'être affamé. Le chef de la chefferie de Basile, le Mwami Kalenga Riziki, appelle la police à tout mettre en œuvre pour reprendre ses prisonniers car leur liberté peut accentuer l'insécurité dans l'ensemble du territoire de Mwenga. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Le Tchad, sur la liste des pays visés par le décret migratoire américain bannissant ses ressortissants du territoire américain, N'Djamena a exprimé son étonnement et son incompréhension. La porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingué, a déclaré que la décision de Washington contraste avec les efforts et les engagements constants du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au niveau régional et mondial. N'Djamena appelle le président Donald Trump à reconsidérer cette décision et ne souhaiterait pas être amené à user du principe de réciprocité qui serait préjudiciable aux intérêts des deux pays. Le Soudan, lui, s'est engagé à redoubler d'efforts pour normaliser ses relations avec les États-Unis. C'est à la suite de la décision de Washington retirant les Soudanais de la liste actualisée des pays concernés par le décret migratoire de Donald Trump. Ce décret interdit ou limite l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 8 pays, la Corée du Nord, l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie, le Tchad, le Venezuela et le Yémen. Le président français Emmanuel Macron a affirmé à son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra que la France allait continuer ses efforts pour aider à la réconciliation en Centrafrique. M. Macron a estimé que Bangui a besoin d'un État fort pour sortir de la crise. Il a encouragé le président Touadéra à poursuivre les efforts destinés à faciliter la réconciliation nationale. En Guinée, la commission électorale indépendante a proposé la date du 4 février 2018 pour la tenue d'élections locales réclamées par les partis d'opposition. D'après le président de la CENI, Salifou Kébé, le président Alpha Condé devra signer un décret pour valider cette proposition. Ce scrutin n'a plus eu lieu depuis 2005. Des dizaines de milliers de personnes avaient à nouveau manifesté le 21 septembre à Conakry à l'appel de l'opposition pour exiger son organisation. La rentrée dans les universités publiques du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun a été reportée sine die. Ces deux régions anglophones sont en proie à une grave crise sociopolitique, n'est-ce pas, Solange Nyamulisa?
Selon un communiqué du cabinet du Premier ministre, la rentrée académique aura lieu officiellement le 26 septembre 2017 dans les universités d'État et les instituts privés d'enseignement supérieur, à l'exception des universités de Bouéa dans le sud-ouest et de Bamenda dans le nord-ouest. Les deux universités ont été autorisées à réajuster leur calendrier académique pour respecter le taux réglementaire de couverture des programmes d'enseignement supérieur. Le texte ne précise pas que si ces reports sont dus au remous qui agite les deux régions du pays depuis novembre 2016 et la crise provoquée par la contestation anglophone au Cameroun. La rentrée scolaire dans le secondaire a eu lieu le 5 septembre dans les deux régions anglophones sur les 10 que compte le Cameroun. Depuis cette date, plusieurs écoles ont été incendiées, notamment à Bamenda. Vendredi, des manifestations d'indépendantistes réunissant des milliers de personnes avaient eu lieu dans les rues des régions anglophones, alors même que les autorités du Nord-Ouest avaient interdit toute manifestation. Les séparatistes anglophones veulent proclamer symboliquement leur indépendance le 1er octobre, date de la réunification des partis anglophones et francophones du Cameroun.
Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, l'un des leaders de la contestation anti-Mugabe, a comparu devant la haute cour de Harare aujourd'hui. L'encourt jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable des accusations auxquelles il fait face. Les précisions de Jacques Aristide.
Fondateur du mouvement This Flag, ce drapeau, ce pasteur évangélique est derrière plusieurs manifestations depuis l'an dernier pour dénoncer ce qu'il appelle la corruption, les violations des droits humains et le déclin de l'économie du Zimbabwe que dirige Robert Mugabe depuis près de 40 ans. À l'ouverture de son procès, Evan Mawarire a plaidé non coupable aux deux chefs d'accusation retenus contre lui, incitation à la violence et tentative de subversion contre un gouvernement constitutionnel. Pour le procureur de l'État, l'année dernière, M. Mawarire incitait, à travers ses médias sociaux, la population à renverser le gouvernement. Le pasteur de 39 ans a été arrêté hier en plein service religieux à Harare pour avoir diffusé la veille une vidéo sur la pénurie de carburant au Zimbabwe. D'après son avocat, il a déjà été appréhendé plusieurs fois. Après être ressorti libre du tribunal en juillet 2016, il s'était exilé en Afrique du Sud, puis aux États-Unis. En février dernier, ayant laissé sa femme et ses trois filles en Amérique, il était revenu dans la capitale zimbabwéenne et avait été arrêté à l'aéroport. Après son procès en mars dernier, il avait été libéré sous caution. Son passeport lui a été confisqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie nord-coréenne, Ri Yong-ho, a accusé le président américain Donald Trump d'avoir déclaré la guerre à son pays. Il faisait allusion à un message du président Trump samedi sur Twitter dans lequel il mettait en garde les dirigeants nord-coréens. Pyongyang a menacé d'abattre les bombardiers américains s'approchant de ses côtes. Les Kurdes d'Irak ont voté aujourd'hui en faveur de leur indépendance. Ce référendum historique pourrait ouvrir la voie à l'État pour lequel ils luttent depuis près d'un siècle. Les précisions de Dilidico.
Les résultats anticipés du référendum prévoient un franc oui en faveur de l'indépendance du Kurdistan irakien. Mais Massoud Barzani, président de cette région autonome, a tenu à rappeler à ses concitoyens que le scrutin ne conduirait pas immédiatement à l'annonce de l'indépendance, mais qu'il donnerait plutôt lieu à un début de discussion sérieuse avec Bagdad. Le référendum s'est tenu dans les provinces d'Erbil, Souleymaniye et Dohuk, mais également dans les zones disputées avec le gouvernement central irakien. Les électeurs se sont présentés en masse. Au total, 12 072 bureaux de vote ont été installés dans la région autonome du Kurdistan et dans les zones disputées. Ils sont ouverts jusqu'à 18h heure locale pour permettre aux 5,3 millions d'inscrits de se prononcer sur l'indépendance. Cette consultation populaire constitue un pari risqué pour le Kurdistan, car le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, a fait savoir qu'il prendrait les mesures nécessaires pour préserver l'unité de l'Irak. Le Parlement irakien vient d'exiger l'envoi de l'armée dans les zones disputées sous contrôle kurde depuis l'invasion américaine de 2003.
En Irak, toujours, 42 personnes ont été exécutées par pendaison. Elles avaient été condamnées à mort pour rapt, assassinat. De forces de sécurité, recours à des voitures piégées ou à des engins explosifs. Ces exécutions ont eu lieu dans l'enceinte de la prison de Nasiriyah dans le sud après confirmation du verdict et sur décision du Conseil présidentiel. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique est signée Jacques Aristide.
La compagnie britannique Qatar Oil va reprendre ses forages pétroliers au Ghana d'ici à la fin de l'année après un arrêt du tribunal international du droit de la mer sur un différend à propos de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. D'après ce tribunal, le Ghana n'a pas violé les droits souverains de la Côte d'Ivoire, comme l'affirmait Yamoussoukro, qui considérait avoir un droit exclusif d'exploitation d'hydrocarbures dans une zone offshore disputée. Tolo compte toutefois travailler avec les deux pays après cet arrêt. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, des compagnies opérant des taxis chics pour transporter la nouvelle classe moyenne sont en train de voir le jour. Bénin Taxi, un partenariat privé-public, est venu rivaliser avec l'ivoirien Africab et la société Soft Taxi pour exploiter ce marché. Le gouvernement voit dans ces nouveaux projets une opportunité économique et une source d'emploi pour les jeunes qui représentent environ 60% de la population. En Guinée-Bissau, la croissance du PIB devrait atteindre 5,2% cette année en raison d'une nouvelle récolte considérable de cajou dans un contexte de prix internationaux attractifs. Revenu record des paysans, prévision de croissance flatteuse, la Guinée-Bissau savoure ainsi le succès de sa bataille pour mieux profiter du cajou, sa principale production, même si la transformation locale demeure un défi.
Sans transition, nous passons au sport. Nicolas Pinot avec moi. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors, la Ligue africaine des champions, on connaît l'affiche des demi-finales, n'est-ce pas?
Eh oui, les Tunisiens de l'étoile sportive du Sahel ont battu 2-0 les Libyens de Al Ahly Tripoli. C'était hier à Sousse en quart de finale retour de cette Ligue des champions d'Afrique. Dans le dernier carré, l'étoile rencontrera l'équipe égyptienne d'Al Ahly qui a éliminé l'Espérance de Tunis samedi. Dans l'autre match, les Marocains de Casablanca, tombeurs détenant du titre, les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Ils affronteront l'USM Alger qui s'est débarrassé du Ferroviaro de Beira.
Et en Coupe CFA aussi, les jeux sont faits.
Les Congolais du tout-puissant Mazembe, tenant du titre, se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe CAF en battant sur leur pelouse les Soudanais Dalila Lobied 5-0. Ils rencontreront le FUS de Rabat qui a éliminé en Tunisie le CS Sfaxien au tir au but. Dans l'autre demi-finale, le club africain de Tunisie affrontera le Supersport United qui est allé faire match nul 2-2 chez le Zesco en Zambie.
Et à partir de demain en Europe, Nico, nous assistons à la deuxième journée de la Ligue des Champions.
L'Armada du Real Madrid, double tenant du titre, se rend sur la pelouse du Borussia Dortmund, très en forme. Ce sera demain soir. Autre choc attendu, Manchester City, intraitable en Angleterre, face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Dans les autres rencontres, après un nul contre Séville de partout, Liverpool se rendra chez les Russes du Spartak Moscou. Monaco, après deux succès autoritaires en championnat, accueillera Porto au Stade Louis II. Les Portugais doivent réagir après s'être inclinés 3-1 chez eux face au Besiktas. Besiktas qui jouera contre Leipzig. Et puis Naples accueillera Feyenoord Rotterdam. Enfin, l'Apoel Nicosie contre Tottenham.
Et on va terminer avec ce coup dur pour la Juventus de Turin.
Le président de la Juve, Andrea Agnelli, a été condamné à 1 an de suspension et 20 000 euros d'amende pour une affaire de vente de billets à des groupes ultra. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la Fédération italienne de football.
Merci Nicolas pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour aborder la seconde partie de cette édition, les dossiers du jour. Les ressortissants tchadiens sont bannis du territoire américain. Washington a ajouté N'Djamena sur la liste des pays visés par le décret migratoire de Donald Trump. Ce décret interdit ou limite l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 8 pays. André Kodmajingar a recueilli les réactions des autorités et praticiens du droit. Suivez son reportage.
Les Tchadiens se disent désagréablement surpris de la décision du président Donald Trump leur interdisant d'entrer sur le territoire américain. Vu les accords de coopération entre les deux pays et vu l'engagement du Tchad sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme, le président Donald Trump ne devrait pas prendre une telle décision contre les ressortissants tchadiens, ont-ils affirmé. Dr Ngartebaye et Eugène Luyota, juriste, politiste, analyste et indépendant, s'interrogent sur le mobile réel de cette décision.
Si cette décision est arrivée, c'est que le Tchad abrite un certain nombre de personnes jugées potentiellement comme des terroristes. Est-ce que les autorités américaines ont engagé des démarches auprès des autorités tchadiennes pour demander des informations relatives à ces personnes et que les autorités tchadiennes ne se sont pas exécutées? Est-ce qu'on arrive à trouver des bagages suspects en provenance du Tchad? Est-ce que les autorités tchadiennes disposent de bases de données actualisées qui peuvent permettre de transmettre en temps réel les informations aux autorités américaines qui les souhaitent dans le cadre de lutte contre le terrorisme et que les autorités tchadiennes n'arrivent pas à le faire? C'est ça aussi les inquiétudes.
Dr Ngartebaye et Eugène Leyota précisent par ailleurs que cette décision est une incidence diplomatique et invite les autorités tchadiennes à clarifier la situation.
Oui, c'est une incidence diplomatique, bien évidemment, puisque c'est interdit à tous les Tchadiens, y compris nos autorités. Donc la tension, elle est palpable. Que font nos représentants au niveau des États-Unis s'ils ne peuvent pas recevoir les compatriotes? Je pense que les jours qui suivent vont nous dire, à travers la position de l'État tchadien, le développement ultérieur de relations avec les autorités américaines.
Justement, la réaction du gouvernement tchadien ne se fait pas attendre. Au cours d'une déclaration faite ce lundi à son cabinet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingue, se dit ne pas comprendre la motivation réelle de cette décision.
Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Aussi, le gouvernement tchadien appelle-t-il à une meilleure appréciation de la situation et invite le président Donald Trump à reconsidérer cette décision qui porte gravement atteinte à l'image du Tchad et aux bonnes relations qu'entretiennent les deux pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Toutefois, le gouvernement ne souhaiterait pas être amené à user du principe de réciprocité dont l'application serait préjudiciable aux intérêts des deux pays.
André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Et Kabadou avec vous dans votre émission interactive à votre avis à 18h en temps universel. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'administration Trump qui durcit une nouvelle fois le ton en matière d'immigration. Elle vient de décider de refuser les visas aux ressortissants du Tchad. 4 autres pays africains étaient concernés. Le Maroc, l'Érythrée, la Guinée et le Soudan du Sud viennent d'être retirés de cette liste. À votre avis, pourquoi le Tchad se retrouve dans cette liste? Pourquoi le gouvernement Trump durcit-il le ton? Laissez vos commentaires et numéro de téléphone ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. Rendez-vous sur www.voaafrique.com.
23 ans après le génocide au Rwanda, la banque française BNP Paribas se retrouve pour la première fois au cœur d'une enquête pour complicité. L'association anticorruption Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et l'ONG Ibuka France l'accusent d'avoir financé un achat d'armes au profit de la milice Hutu pendant le génocide de 1994. Une information judiciaire a été ouverte à Paris pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Pour en parler, Yakuba Ouedraogo a joint à Kigali le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, Alain Gauthier.
Nous reprochons tout simplement à BNP Paribas d'avoir, à la mi-mai 1994, financé un achat d'armement qui ont servi dans le génocide des Tutsis.
Comment le groupe bancaire BNP Paribas a pu financer les achats d'armes quand on sait que pendant cette même période du génocide, les Nations Unies ont décrété un embargo justement sur les armes au Rwanda?
Ça paraît assez extraordinaire de voir qu'une banque aussi importante que BNP Paribas ait pu, malgré l'embargo des armes, ça veut dire que certaines personnes se sentent au-dessus des lois, au-dessus des décisions internationales. L'argent n'a pas d'odeur.
Est-ce que vous savez comment la banque a procédé?
C'est difficile de vous le dire comme ça parce qu'il faudrait que je me replonge un petit peu dans la plainte que nous avons déposée. C'est très très bien détaillé. Nous avons déposé une plainte vraiment très alimentée, très bien structurée, avec à l'appui nombre de documents qui, selon nous, prouvent que la banque BNP Paribas a financé cet armement.
Vous vous êtes constitué partie civile dans cette plainte. Qu'est-ce que vous demandez à la justice française?
C'est que la justice française, maintenant qu'une instruction est ouverte, eh bien, fasse toute la lumière sur ce qu'a pu être le rôle de la BNP Paribas. Ça pourrait aussi servir à d'autres à l'avenir. C'est une complicité de crimes contre l'humanité. Ce sont des événements extrêmement graves.
On sait que les relations ne sont déjà pas au beau fixe entre Paris et Kigali, du fait notamment des multiples accusations. Pensez-vous vraiment que la justice française puisse faire la lumière dans cette affaire de BNP Paribas?
C'est un juge d'instruction qui a été nommé, un juge d'instruction du pôle crimes contre l'humanité. Nous ne comprendrions pas que ces juges-là, dont on dit qu'ils sont indépendants, ne puissent pas aller jusqu'au bout dans l'instruction de cette affaire. Il faut absolument, c'est nécessaire, même pour les citoyens français, pour les citoyens du Rwanda et les citoyens du monde entier, que cette affaire aille à son terme.
Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda. En RDC, les professeurs de l'université de Kinshasa et de l'université pédagogique ont entamé leur quatrième semaine de grève. Ils demandent une revalorisation de leur salaire et veulent aussi choisir leur recteur. Ce mouvement de revendication a perturbé les cours et examens. Les précisions de Abdelrahman Dia, notre envoyé spécial à Kinshasa.
Contrairement aux médecins qui ont mis fin à leur mouvement de grève après un accord avec l'État, les professeurs d'université, eux, sont toujours à l'écoute du gouvernement. Ils demandent l'application des accords signés en 2010. Professeur Mathieu Bokolo est vice-président du syndicat des professeurs de l'université de Kinshasa.
Il fallait ramener les salaires à 2 000 $ et l'améliorer progressivement. Mais depuis 2010, l'amélioration n'a pas eu lieu, mais par contre, les 2 000 $ s'effritent. Et suite à la dépréciation de la monnaie, nous ne sommes plus qu'à 1 100 ou 1 200 $. Et voilà que nous avons perdu pratiquement plus de 40% de notre pouvoir d'achat.
Les enseignants dénoncent aussi le manque d'investissement dans l'enseignement, ce qui a un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. Professeur Bokolo.
C'est une situation très grave qui compromet même le développement du pays. Nous n'avons pas d'allocation de recherche, nous n'avons pas d'allocation pour faire la documentation ou la diffusion de nos savoirs. Et ça pose un problème. Il n'y a rien, il n'y a pas de financement de la recherche, il n'y a pas de financement des équipements.
Les enseignements et le calendrier académique souffrent de ce bras de fer. Les étudiants essayent de faire avec cette incertitude.
Nous, on continue à travailler, à bosser. On ne sait pas si ça va aller jusqu'au bout ou quoi. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on a commencé la deuxième session, mais je ne sais pas si ça ira jusqu'au bout. Mais ça nous affecte parce que les temps aussi de préparation et puis l'année aussi. Normalement, on commence le mois d'octobre, mais nous sommes au mois de septembre et octobre déjà. En faisant la deuxième session, on va entrer dans le mois de octobre, donc ça va pénaliser aussi le calendrier académique.
Mais son camarade Kadima est plutôt optimiste.
À mon avis, dans notre faculté de médecine, cette grève en fait n'a rien perturbé. Parce que normalement, on avait fini la première session. Maintenant, la deuxième session commence aujourd'hui.
Abdelrahman Dia, Kinshasa, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Sénégal, le gouvernement s'attelle à désengorger la capitale Dakar et sa banlieue. Il a entrepris le prolongement de la voie de dégagement nord, VDN. Ce projet couvre 26 km de route et a déjà causé pas mal d'inconvénients à nombre de gens. Les pratiquants de sport ont vu les travaux empiétés sur les aires de jeu. Cette situation leur a obligé à se rabattre sur des terrains de fortune, comme l'a constaté notre correspondant Seydina Abagay à Dakar.
De l'unité 26 des parcelles assainies à Diamalaï, les terrains de football ont laissé place à un viaduc long d'un kilomètre. Abdouaziz, dirigeant de l'équipe de football des HLM Grand Médine, ne cache pas sa peine. Cependant, il estime que l'utilité publique prime sur tout.
Bon, ça va, actuellement on gère tout. Bon, c'est un peu difficile, par exemple, quand on ne joue pas, on donne presque à chaque jour le moyen de transport. Mais je pense bien que, qu'on l'avait dit, qu'un jour il y aura la VDN qui va passer ici. Un peu difficile parce que là on est à côté de la mer, donc la VDN a pris le terrain, c'est ce qui est normal. Bon, on n'a pas le choix, hein. Franchement on n'a pas le choix quand l'État veut. Donc on est obligé de perdre, donc c'est ça.
Malgré les efforts pour continuer leurs activités, ces équipes rencontrent d'énormes difficultés.
Parfois c'est un peu difficile parce que en fait, quand il pleut, le terrain il est inondé. Hein. Donc parfois c'est un peu difficile, parfois on s'entraîne à côté de la mer, parfois il y a des contraintes. Il paraît qu'il y a des litiges hein, là où on est actuellement. Il paraît qu'il y a des litiges. Bon, en fait, il y a des promoteurs à qui appartient en fait ce terrain.
Depuis le début des travaux de la VDN 2, les pratiquants du sport squattent les terrains vagues des quartiers ou les cours des écoles quand ils ne se retrouvent pas à la plage. Hassim Sen juge cette situation insoutenable.
Cette situation elle est très difficile parce que bon, nous n'avons plus de terrain à jouer, raison pour laquelle bon, nous sommes ici à l'école Unité 26 pour jouer. Aussi, avec l'approche de l'ouverture, je crois qu'il y a un grand problème que les AC puissent s'entraîner parce qu'il n'y a plus de terrain de jeu. Les terrains occupés par la VDN sont les terrains qui s'entraînaient, mais bon, puisqu'il n'y a plus de terrain, la plupart des AC s'entraînent à la plage. C'est un peu dangereux parce que bon, il y a les enfants aussi qui viennent là pour regarder l'entraînement de l'AC. Et aussi, il y a une danse aussi parce que il peut aller se baigner, se noyer, il y a tout ça là.
Sur les 26 km qui constituent le prolongement de la VDN, le kilomètre qui se situe entre les parcelles Asseni et Diamalaï prive les entités sportives et plusieurs centaines de jeunes d'aires de jeu. Ces pratiquants du sport ne peuvent plus vivre leur passion convenablement. Ils espèrent un accompagnement logistique de l'État pour continuer leurs activités sportives. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. José de Morissin a assuré la mise en onde. À la console, Nelson Lopez, Eric Manirakiza à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Je vous retrouve à 19h30, temps universel.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.